إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث معنا متواصلا في هذه الأيام المباركة، أيام الإجازة التي اخترنا فيها أن تكون لكم دروسا خاصة وعامة للصغير والكبير وللرجل وللمرأة، يعني دروسا عامة منتقات من كتاب قيم ونافع اسميته وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ العلامة رحمه الله محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وتطرقنا في الأمس وبدأنا هذه السلسلة من سلسلة الدروس الأسبوعية إن شاء الله التي تكون ستدوم مدة أسبوع أو أسبوعين متى تيسر لنا، أن نتدارس هذه الوصايا فيما بيننا وننتفع منها، ولا شك أنها نافعة لكل مسلم خاصة وللأمة الإسلامية عامة. ونذكركم أننا بدأنا الوصية الأولى من هذا الكتاب، ألا وهي احفظ الله يحفظك. درسنا الأمس هذه الوصية العظيمة التي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم لحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، الوصية الجامعة والعظيمة التي ذكر فيها أمورا عظيمة تطرقنا إليها الأمس. ومواصلة لما بدأناه سنقوم بدراسة الوصية الثانية من هذا الكتاب المبارك، ألا وهي التقوى وحسن الخلق. Donc je disais, à l'occasion des vacances, inshallah, on va continuer à faire des durus concernant les wasaya du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les préceptes ou les testaments du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. Et c'est une série des wasaya tirées du livre qui a le nom Wasaya al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est expliqué par Cheikh al-Uthaymin, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, après un étudiant, un talib ilm, qui a regroupé ses wasaya, c'est-à-dire ses hadiths, tirés de des hadiths, regroupés dans ce livre. Il a cité 28 wasaya dans ce livre, rahimahullah ta'ala, qui concerne l'explication des hadiths et quel hadith. Hier, on a commencé par la première wasaya, qui est احفظ الله يحفظك. Garde Allah, il te gardera. On avait commencé hier cette première wasiya concernant ce hadith et on a tiré des leçons à partir de ce hadith. Et chaque jour, inshallah ta'ala, on va continuer cette série de durus tirées de ce livre. Très bien, je vous recommande de l'avoir si vous pouvez, inshallah. Donc le livre s'appelle Wasaya al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et je répète, hier on avait commencé la première wasiya concernant le hadith important qui a récité ou qui a cité à Ibn Abbas radiallahu anhuma. Et on a tiré, on a lu l'explication de Cheikh Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala et quelles leçons tirées de ce hadith important. Et chaque jour, inshallah ta'ala, on traitera une wasiya. Et aujourd'hui, c'est la deuxième journée, donc on va continuer cette série des durus et on va faire al-wasiyyah thaniya. Al-wasiyyah thaniya concerne at-taqwa wa husn al-khuluq. la crainte et le bon comportement. La crainte et le bon comportement. Et comme d'habitude, comme vous le savez, et vous l'avez remarqué, on va lire le hadith et ensuite l'explication de Cheikh Al-Taymin et toutes les leçons tirées de ce hadith très important. Al-Wasiyatu Thaniya. At-Taqwa wa Husnul Khuluq. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Donc selon Abi Dharr, qui Jundub ibn Junada, son vrai nom et prénom, وأبي عبد الرحمن, son nom c'est Mu'ad ibn Jabal, qui est le sahabi connu Mu'ad ibn Jabal. An Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam a qal, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ittaqillaha haythuma kunta. Ittaqillaha haythuma kunta. Wattba'i sayyata alhasanata tamhuha. وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abi Dharr, اتق الله حيث ما كنت. Donc ça c'est le premier précepte du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abi Dharr. Il lui dit, اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ. Crains Allah où tu trouves. وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. La deuxième chose. وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Essuie ou succède la mauvaise action, une bonne action, elle effacera. وخالق الناس بخلق حسن. Et comporte-toi bien avec les gens. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. Donc ça c'est le degré du hadith. On va lire et on va voir et on va écouter ensemble inchallah quelles sont les leçons tirées de ce hadith très important dans lequel Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah il a considéré comme une wasiya. Et c'est vrai, un conseil pour sa communauté, même si le conseil était personnel à Abi Dharr, mais en général c'est pour le profit de sa communauté. Donc on remarque dans son hadith, il y a trois choses, trois préceptes. La première lui dit, ittaqillaha haythuma kunta, crains Allah où tu te trouves. Ensuite il lui dit, وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Essuie ou succède une mauvaise action par une bonne action. Et cette bonne action effacera la mauvaise action. Et troisième chose, وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et comporte-toi bien avec les gens. Et le degré des hadiths et les hadiths Hassan, et dans une version, dans d'autres ouvrages, wa fi ba'd an-nusakh hasanun sahih. Al-Sharh, on va voir l'explication de ce hadith très important. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il commence par ce hadith. Il dit, al-wasiyatul ula, ittaqillaha haythuma kunta. Donc, il commence à détailler, expliquer une par une. Donc, combien de préceptes ou de wasiyah dans ce hadith? Combien? Trois ou quatre? Trois. La première qui est, ittaqillaha haythuma kunta. Et la deuxième, donc la première, écrans là où tu trouves. La deuxième, واتبع السيئة الحسنة تمحوها. Et suis ou succède une mauvaise action par une bonne action. Elle effacera. Et la troisième, وصيه أو الكلمة الثالثة وعامل الناس بخلق حسن وعامل الناس بخلق حسن. Donc Cheikh Al-Uthaymin رحمه الله تعالى il commence à expliquer la première كلمة أو الوصية الأولى اتق الله حيثما كنت. قال اتق الله حيثما كنت وتقوى الله. Donc Cheikh il commence par expliquer ou donner une définition du terme at-taqwa. Avant de connaître l'explication du Cheikh, qui peut nous définir l'explication du taqwa? Aïe. Souvent on dit aux gens taqillah, mais que signifie taqillah? Hein? On répète souvent itaqillah, itaqillah, mais que signifie itaqillah? Est-ce que qui le dit, il sait son sens? Et celui qui l'a entendu, est-ce qu'il a bien compris ou il va pratiquer son sens? Que signifie itaqillah? Ou on va commencer par le simple at-taqwa. Ma ta'rifu at-taqwa? Wa taqwa Allah hiya. Je vais dire non. Selon la réponse des chefs. Selon la vraie définition du taqwa. Toi, tu connais, tu ne me réponds pas. Ah, vas-y. Masha Allah, barakallah. Tu mériteras un livre de ton choix. Inch'Allah ta'ala. Une bonne réponse. Détaillé. Ça, c'est une réponse détaillée. Le shir s'est limité sur une réponse générale et elle est suffisante pour nous. Elle est suffisante pour nous. Et même cette définition, même Cheikh Islam de Taymiyyah l'a récité dans ses ouvrages, même l'imam Nawawi dans Riyad al-Salihin aussi l'a récité, il a donné cette définition suivante. Wa taqwa Allah hiya ijtinabul maharim. وفعل الأوامر. C'est ça la définition du taqwa en général. هي اجتناب المحارم وفعل الأوامر. Donc c'est ça la crainte. S'éloigner des interdits et pratiquer les ordres d'Allah, bien sûr, et son messager. Donc, est-ce que c'est clair la définition du taqwa pour tout le monde? Ibrahim. Donc c'est ça le taqwa. Hein? Aïe wallah. At-taqwa hiya. Ijtinabun nawahi wa fi'lul awamir. C'est ça le taqwa. C'est ça la crainte d'Allah. Hadihi at-taqwa. An taf'ala ma amaraka Allahu bihi. إخلاصا لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est ça la crainte. أن تفعل ما أمرك الله به. Que tu pratiques ce qui t'a ordonné Allah Ta'ala. Mais avec une sincérité. Avec une sincérité. Et deuxième chose, la conformité ou le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa an tatruka ma naha Allah anhu imtithalan lillahi Allahi azza wa jal wa tanazzuhan min maharimillah. Donc ça c'est la deuxième partie. Wa an tatruka ma naha Allah anhu. Donc ça c'est l'explication, le détail du terme wajtinabi al-maharim, qui signifie أن تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله عز وجل. Donc tu délaisses les interdits, imtithalan li nahi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, en pratiquant ce qu'il t'a demandé Allah Ta'ala de délaisser. Wa tanazzuhan min maharimillah. Et aussi, dans le même objectif, pour s'éloigner de ces interdits. Mithaluhu. Donc ça, il a défini, Cheikh a appris là qu'il a défini, il a donné le terme ou la définition générale, ensuite il a un petit peu détaillé. Ils donnent des exemples. Et ça, c'est très important. Des fois, on a des définitions, peut-être qui peuvent être compliquées ou dures à comprendre, mais avec un exemple, s'éclaircissent les définitions. مثاله تقوم ما أوجب الله عليك من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. Il dit par exemple que tu pratiques ce qui t'a ordonné Allah Ta'ala et ça fait partie, ou la chose qui fait partie aussi, la pratique des cinq piliers. Et la meilleure, et le meilleur pilier, ou le plus, degré, plus haut degré de ces piliers, après l'intercession, qui est as-salat. Donc qui pourra nous dire comment on peut avoir une crainte dans la prière? Sachant que la prière, sachant que la crainte est définie par s'éloigner de ses interdits et pratiquer ses ordres. Donc là, on va passer aux pratiques. Que signifie ou comment on peut craindre Allah dans nos prières? Aïe, wahed minkum. Qui parmi vous peut pour nous aider à... Parce qu'on sait, on a bien compris que la crainte, au taqwa, ijtinab il maharim, wa fi'l al awamir. Ça, c'est le son général. Ah, on va pratiquer ça. Par exemple, il donne l'exemple de la prière. Comment on peut craindre Allah dans nos prières? As-salat li waqtiha, ahsant. Faire la prière à l'heure. Et non pas retarder les prières, comme certains gens font, malheureusement. Hein? Si? Hajj? Il a dit salat al-fajr. Salat ma'al jama'a, masha'Allah. La prière en groupe, faire la prière à l'heure, etc. Et l'heure, c'est très important. Et non pas regrouper les prières parce qu'on travaille. Hein? Naam. Il a donné une bonne réponse que Cheikh Al-Thaymi l'a cité. Il a dit faire ses piliers. Donc, Cheikh a dit فَتَأْتِي بِهَا كَامِلَةً. Donc, tu accomplis ta prière complètement. En faisant quoi? بِشُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَتُكَمِّلَهَا بِالْمُكَمِّلَاتِ. Il a dit, en faisant la prière, en pratiquant cette prière, ou les prières, avec leurs conditions, et leurs piliers, et leurs obligations, et leurs compléments. Tout ça, si on fait tout ça, on arrive au degré qu'on a craint, on a craint Allah, dans nos prières. C'est ça la crainte dans la prière. Si tu accomplis ces conditions, si tu accomplis ces piliers, si tu accomplis ces obligations, si tu accomplis ces compléments, toutes ces choses, ils font partie de la crainte d'Allah envers la prière, ou pour la prière. Donc ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'on dit, et on le répète, il faut connaître les conditions de la prière. Il faut connaître les obligations de la prière. Il faut connaître les piliers de la prière. Il faut connaître les sunan ou les compléments de la prière. Sinon, on ne pourra pas pratiquer la salat parfaitement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni Vous salliez. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites la prière comme je l'ai fait. Comment on pourra faire la prière comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam si on ne sait pas, on n'apprend pas ses obligations, ses piliers, ses conditions et ses compléments. فَمَنْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَوْ وَاجِبَاتِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهِ سبحان الله. Il a dit, فَمَنْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ. Celui qui n'accomplit pas une condition parmi les conditions de la prière ou de ses obligations, فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهِ. Lui ou cette personne n'a pas craint Allah. Regardez juste parce que on n'a pas accompli la prière. Bel naqasa min taqwahu ma naqasa min al-ma'mur. Donc sa crainte est relative par rapport à ce qu'il accomplit. Donc si la prière elle est parfaitement accomplie, donc sa crainte, elle est donc plus haut degré. Il donne un deuxième exemple. Fils zakat. Comment on peut réaliser cette crainte dans zakat, l'aumône? C'est ça? C'est l'aumône, zakat. Comment on peut accomplir la crainte dans zakat? Aïe. D'ailleurs, détail plus. Une autre personne. Aïe. Comme Hachmanin ou quoi? Ikhraj al-zakat fi waqtiha, masha'Allah. Ah, warram sahab al-zakat. Warram sahab al-zakat. Où sont les gens de la zakat là? Ah. Mais zakat, non, le zakat, on ne veut pas les gens. Il a dit, sortir zakat dans son temps, ça fait partie de la crainte. Ça, c'est les conditions de zakat. Fais zakat, taqwa Allahi fiha, donc la crainte d'Allah dans zakat, an tuhsi jami'a amwarika allati fiha zakat. Que tu regroupes et tu reconnais où tu rassembles tous tes biens qui concernent zakat. Wa tukhrija zakataka tayyibatan biha nafsuk min ghayri bukhlin wa la taqtir wa la ta'khir faman lam yaf'al fa innahu lam yattaqillah. Sharaf Amir Haji. Et tu la sors aussi, et tu sors cette zakat, taïbatan biha nafsuk, à condition que, aussi, que tu es à l'aise quand tu la sors. Parce que parmi nous, quand il sort zakat, il a l'impression que, hein? Non, mais, ni on le sait, il pense que zakat, c'est soit elle est dure, ou, hein? Non, pas bon sens. Cheikh il a dit, à condition avec binafsin taïba, ou taïbatan biha nafsuk, que tu, déjà, tu rassembles tous tes biens, argent, or, bijoux, si tu as du commerce, etc. On avait déjà parlé sur les types de zakat et les catégories de zakat, et leurs conditions, etc. Dans certaines doros qu'on avait fait avant. Et tu la sors aussi. Hein? C'est-à-dire? Voilà. Biha taïbatun biha nafsuk. Avec, comme il a dit Cheikh, avec un bon cœur. C'est-à-dire que tu es à l'aise quand tu la sors. C'est pas tu la sors, mais tu as mal dans ton cœur. Voilà là, Ibrahim. Ceux qui sont riches, quand ils sont en zakat, c'est quand tu l'as parlé sur eux, tu l'as arraché un bras. Non, zakat, haq. Zakat, haq. Rukn min arkan al-islam. C'est pas une sunna ou mustahab ou si tu peux ou si tu as envie. Non. Si les conditions de zakat sont accomplies, tu dois sortir zakat. Et en plus de ça, bi nafsin tayyiba, et tu es content de l'avoir sorti. Tout ça, tu pourras réaliser la crainte d'Allah dans zakat. Min ghayri bukhlin wa la taqtir. C'est-à-dire, tu la sors sans avarice. C'est ça le bukhl. Sans avoir ou sans être avare. C'est ça? Non. Wa la ta'khirin, et sans retard. Sans retard, les frères. Il n'y a pas de mal si on ne savait pas. Et on répète chaque fois, il n'y a pas de mal de ne pas connaître. Le mal, c'est quand tu connais, tu ne pratiques pas. C'est ça le malheur. Si tu ne sais pas, qadar Allah, peut-être tu ne savais pas, peut-être tu as une excuse. Si tu fais partie des gens qui ont des excuses. Parce que si tu ne veux pas, si tu veux pas apprendre, tu n'es pas excusable. Si tu ne veux pas apprendre, tu sais qu'il y a des doros, les frères. Tu sais, serviteur d'Allah, que s'il y a des doros, que tu sais qu'il existe un imam qui peut te répondre à ta question. Tu connais un savant qui connaît, qui sait ou qui est capable de répondre à ta question. Et toi, tu négliges, tu n'es pas excusable. Même si tu es ignorant. Donc il faut faire attention dans ça. Il faut faire attention à ça. Donc de la retarder ou de ne pas faire sortir à l'heure, il n'y a pas de mal. Mais l'essentiel, il faut la sortir même avec du retard, mais quand même, si tu sais, tu dois la sortir à l'heure. C'est-à-dire, comme on l'avait expliqué, à partir du moment où tu as atteint le seuil, et cet argent ou ce bien est resté un an, là tu pourras sortir à zakat. On l'avait détaillé avant, Inch'Allah. فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهِ. Donc celui qui ne fait pas ça, il n'aura pas, il n'a pas craigné Allah comme il doit être. Il donne un troisième exemple. فِالصَّوْمِ يَأْتِ بِالصَّوْمِ كَمَا يَأْتِيَ بِالصَّوْمِ كَمَا أُمِرَتْ مُجْتَنِبًا فِيهِ اللَّغْوَ والرفخ والصخب والغيبة والنميمة. Dans le jeûne, qui est le troisième pilier de l'islam, aussi, il faut le pratiquer comme il était recommandé, en évitant al-lahw, le bavardage, c'est ça, al-lahw, parole futile, voilà. وَالْرَفَثَ, l'obscénité, j'ai trouvé le terme obscénité. الْرَفَث, comme le hajj, la rafatha, voilà. Non, c'est pas le... Non. وَالْسَخَبْ, les cris et le bruit. وَالْغَيْبَ, calaminé ou la calamité. La médisance. وَالْنَمِيمَ, hein, corps, colportage. Voilà. Donc toutes ces choses, elles sont interdites dans le jeûne. C'est déconseillé de les faire, bien sûr, en dehors du jeûne, mais en particulier, surtout quand on est dans le moment où on jeûne. Donc avec ces choses, si on évite toutes ces choses, là on pourra réaliser la crainte dans le jeûne. Et toute autre chose qui affaiblit la récompense du jeûne. ويزيل روح الصوم ومعناه الحقيقي والصوم وهو الصوم عما حرم الله عز وجل. Et le jeûne, c'est, comment on traduit le jeûne, s'abstenir de toutes ces les interdites que Allah Ta'ala l'a interdit. وهكذا بقية الواجبات. Et la même chose pour toutes les obligations. وهكذا بقية الواجبات تقوم بها طاعة لله وامتثالا لامره واخلاصا له واتباعا لرسوله. Donc c'est de cette façon on accomplit nos obligations. Ta'at lillah, par obéissance d'Allah. وامتثالا لامره, aussi dans le même sens. واخلاصا له, et deuxième chose, avec une sincérité. واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم, avec conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si on accomplit une obligation, c'est On doit être sincère dans nos pratiques et aussi que cette obligation ou ce devoir, on doit le faire d'une façon conforme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك في المنهيات تترك ما نهى الله عنه امتثالا لنهي الله عز وجل حيث نهاك فانتهي. Donc aussi, la même chose dans les interdits, aussi on le délaisse en obéissant à Allah, parce que Allah Ta'ala nous a recommandé de le délaisser. لنهي الله عز وجل حيث نهاك فانتهي. Et où il t'interdit, Allah Ta'ala et son messager, tu dois t'abstenir et ne le pas le faire. Donc ça, c'est concernant al-wasiyya al-oula, qui est le sens de ittaqillaha haythuma kunta. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, Ibrahim? Al-wasiyya al-thani, on passe au deuxième précepte. Atbi'i sayyi واتبع السيئه الحسنه تمحها. Et suit une mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera. الشيخ العثيمين dit, اي اذا عملت سيئه فاتبعها بحسنه فان الحسنات يذهبن السيئات. Donc si tu as fait une mauvaise action, suis-la par une bonne action, parce que les bonnes actions effacent les mauvaises actions. وَمِنَ الْحَسَنَاتِ بَعْدَ السَّيِّئَاتِ أَن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ. Et parmi les bonnes actions, si on souhaite ou si on veut que ces mauvaises actions effacent, si on veut faire des bonnes actions qui efface les mauvaises actions, parmi ces bonnes actions, qui est at-tawba min as-sayyi'at, le repenti, c'est ça? Le repenti de ces mauvaises actions. Fa inna at-tawba min afdali al-hasanat, comme a dit Allah Azza wa Jalla, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Le repenti est le meilleur, ou il fait partie des meilleures bonnes actions. Comme il a dit le Allah Ta'ala, dans le sens, Inna Allah yuhibbu tawwabin. Allah Ta'ala, il aimera, ou il aime les repentis. C'est ça? Inna Allah yuhibbu tawwabin, wa yuhibbu al-mutatahhirin. Et ceux qui se purifient. Wa qala ta'ala, wa tubu ila Allah jami'a, ayyuha al-mu'minun, la'allakum tuflihun. Et aussi dans ce verset, qui est dans Sourate An-Nur, la lumière, numéro 31, où s'il recommande de se repentir. Donc, sur le Taïmir Ahmad, il dit, selon ces deux versets, la meilleure chose, c'est se repentir. Ah! C'est quoi ou comment se repentir? Aïe! Ma ma'na tawba wa kayfa yatoub l'insan ou kayfa tasihu tawbatahu min sayyatin amilaha. C'est quoi le tawba déjà? Un dit un nadam, le regret. L'autre il dit s'abstenir du péché. Il y a cinq conditions. Quelles sont ces cinq? Il y en a qui disent trois, mais le plus complet, il y en a cinq. La première chose, avant tout ça, al-ikhlas, la sincérité. Ya Abdallah, idha aradta an tatuba ila Allah, fakhlis tawbataka. Si tu veux te repentir, serviteur d'Allah, la première chose que tu dois faire, et qui est la première condition, la sincérité. La sincérité, al-ikhlas. Tu te repentis, c'est pas parce que tu as peur de Samir ou de Ibrahim. Parce que tu crains Allah. Donc il faut faire attention. On ne délaisse pas une chose ou se repentir parce que l'autre il va parler sur moi ou parce qu'il y a un regard des gens, etc. Non. La première chose, al-ikhlas, la sincérité. La deuxième condition, qui est al-iqla' ani dhanb. Délaisser cette mauvaise action. Il faut l'arrêter. Parce qu'il y en a, tu lui dis arrête de faire ça, Inch'Allah, Inch'Allah. Comment Inch'Allah? Tu dis arrête ça, il va dire s'il veut, si Allah Ta'ala le veut. Ou il va dire l'expression toujours on entend, Inch'Allah, Inch'Allah, je vais arrêter. Mais non, il faut arrêter. Si tu veux faire At-Tawba, c'est quoi At-Tawba? Parce que le terme At-Tawba, du verbe Taba Yatoubou, du verbe dans la langue arabe, taba yatoub, bimana raja'a. Raja'a. Min ma'siyatillah ila ta'atillah. C'est ça le sens du terme taba yatoub. Revenir de la désobéissance d'Allah vers ou à l'obéissance d'Allah. C'est ça le terme taba yatoub. Quand tu dis ana atoub, c'est-à-dire. Tu passes de l'état désobéissance vers l'état obéissance. Donc, raja'a min ma'siyatillah ila ta'atillah. C'est ça le terme at-tawba. Donc, c'est pour ça. Al-iqla' ani dhanb. Tu dois arrêter ou s'abstenir de ce péché ou de cette mauvaise action. Troisième condition. Al-nadam amma fa'al. Le regret de ce que tu as fait. Parce que même si tu es sincère, tu l'as arrêté, mais tu ne regrettes pas. Tu ne regrettes pas. Il faut faire attention à ça. La troisième condition qui est le regret de ce péché que tu as commis. Quatrième condition, adam ar-ruju'i ilayhi. Ne pas revenir à ce péché. Ne pas revenir à ce péché. Hein, il va me dire, mais... Hein? C'est pour ça que je vais le dire. Je vais l'expliquer, je le savais. Parce qu'un, hein, il peut dire, mais si je fais Tawba et je reviens, là, c'est pas ça. Non, pas sur Tawba, quand est-ce que ça a accepté. Parce qu'on peut faire Tawba et retomber dans un autre péché. Ou retomber dans le même péché, donc il faut refaire Tawba pour ce péché. Est-ce que c'est clair? Mais à condition, bien sûr, on ne fait pas volontairement. Si on est revenu, on est revenu. Mais, le premier péché que tu as commis, il ne faut pas, tu fais ton possible de ne pas et faire les causes de ne pas revenir à ce péché. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, soit tu reviens pas au péché en lui-même, ou tu ne fais pas les causes pour arriver à ce péché. Est-ce que c'est clair? Tu sais que zina c'est haram. Oui ou pas? On sait que zina c'est haram. Mais aussi, il faut faire les causes qui va te ramener à faire du zina. Regarder des femmes, parler avec eux, travailler dans une ambiance où il y a la mixité, où tu crains pour toi. Donc tout ça c'est des causes qui peut te ramener à faire le zina. C'est pas parce que tu fais pas zina, tu dis moi je fais pas zina. Non, mais il faut faire attention. Et même dans le verset, est-ce que Allah Ta'ala nous a interdit le zina en lui-même? Il n'a pas dit wa la taf'alu az-zina. Il n'a pas dit ne faites pas ou ne pratiquez pas zina. Il a dit non wa la taqrabu. Ne nous rapprochez pas au zina. Est-ce que c'est clair? C'est très important dans ce verset. Revenez à son tafsir. Les ulama, ils ont tiré beaucoup de leçons de ce verset. Même l'expression, elle est bien précise. Elle dit, wa la taqrabu. Ne rapprochez pas vous, ou ne rapprochez pas à faire cet acte. C'est-à-dire, même faire les causes, l'asbab, التي توصلك الى فعل هذا المحرم, فهو حرام. Donc, toute cause qui te ramène à faire du haram, même si causes sont haram. Donc, c'est pour ça, on essaie, et les ulama, ils ont dit, de ne pas revenir à ce péché ou ne pas faire l'effort, de ne pas revenir ou faire l'effort pour éviter les causes qui vont te ramener à ce péché. Mais si on refait le même péché ou un autre péché, il faut refaire la tawba. At-tawbatu tajubu ma qabla. Le repentir effacera ce qui précédait. Mais bien sûr, il ne faut pas se baser sur des dernières de toute façon. Moi, je continue, mais Allah Ghafour Rahim. Non, mais aussi, juste après, Shadid al-Iqab. Donc, on fait attention. On peut. Et même, dans le hadith, Kullu bani Adam khata, wa khayru al-khata'ina at-tawabun. Chaque être humain, il va commettre un péché. Mais les meilleurs, ces êtres humains, qui sont, c'est ceux qui se repentent. Ils disent pas non, Inch'Allah, après. Il n'y a pas après. Je ne sais pas quand est-ce que malheureusement il peut arriver. Donc c'est pour ça on évite de revenir. Et la cinquième condition, ça c'est après Tawbah, on va parler. Non, c'est pas d'être dans les conditions. Ça c'est on peut, le ulama il a rajouté, il dit, si par exemple j'ai volé une chose, j'ai volé, Abdallah, une personne a volé, comment il peut se repentir? Bien sûr, la sincérité, de toute façon on va terminer le cinquième et après on donne l'exemple. Et la cinquième condition qui est faire at-tawbah fi waqt at-tawbah, faire le repenti dans son temps. Dans ce temps, dans son temps. Et le temps, comme il dit sur le Taïmine, il y a waqt 'am et waqt khas. Il y a un temps bien précis, je veux dire spécifié ou particulier, un temps général. Il y a un premier temps, il faut le faire tawbah à son temps, qui est avant de mourir. Pas forcément le terme avant de mourir, mais athna al-gharara, عند al-maut. Hein? Avant d'agonier? Avant l'agonie. C'est ça? Avant l'agonie. Ça, c'est trop tard. Parce que tu es sur le firage, et le malak al-maut, il est là, et toi, astaghfirullah wa atoub, etc. C'est trop tard, la serviteur. C'est trop tard, Abdallah. C'est là, c'est le moment-là. Et le deuxième temps, qui est qabla, yani qabla shuruq al-shamsi min maghribiha, avant le lever de soleil, avant le lever de soleil de l'ouest, c'est ça, de l'ouest, c'est-à-dire qabla, yani qabla, yani نعم قبل طلوع الشمس من مغربها. Pourquoi? Parce que on sait bien que ça fait partie de alamat al-qiyama. Min alamat al-kubra, min alamat al-qiyama. Donc après, si, parce qu'on sait bien, le soleil se lève de côté l'est. Il se couche, il couche vers le côté ouest. Mais on sait bien que, il y a min alamat al-qiyama, que le soleil se lève de côté ouest. Après ce temps, le temps n'est plus valide de faire tawbah. Donc on a cinq conditions. On prend le cas, le frère il a dit, une personne a volé. Il faut être sincère. Bon ça. Je vais faire tawbah après, une personne il veut faire une tawbah après qu'il a volé, ou il a pris un... Comment t'as dit? L'exemple que t'avais donné. Ah, il a volé, un exemple. Comment il peut se repentir? Les ulama ils disent, la première chose qu'il doit réaliser, la sincérité. C'est-à-dire, si, quand il se repentit, c'est pour Allah. La deuxième chose, c'est quoi? Vous avez oublié? Al-iqla' anil dhanb. Il faut qu'il arrête de voler. Il ne va pas revoler notre personne. Mais, dans ça, il y a un détail. Il faut qu'il rend ce bien à son propriétaire. C'est pas il vole l'argent et après dit moi je vais faire tawba. Ils vendent des milliards, il va dire moi j'ai fait tawba. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Tu dois rendre l'argent ou ce bien ou la chose que tu as pris ou que tu as volé, tu dois la donner à la personne à qui tu as volé. Est-ce que c'est clair? Donc c'est pour ça. Hein? On est loin de ça. Il dit le fait de couper sa main. Il faut avoir un gouverneur qui doit pratiquer ça et des conditions. Et après, il regarde pourquoi il a volé, c'est-à-dire le merda, c'est-à-dire le coût ou le prix de la chose qui est volée. Il y a beaucoup de choses. Mais au moins, donc, il rend la chose à la personne. La troisième condition, le regret. Le fait qu'il a volé, donc il regrette de faire cette mauvaise action. Et la quatrième condition, de ne pas revenir, c'est ça on avait dit. La quatrième, Adam al-Rujou', de ne pas revenir. Et la cinquième, bien sûr, faire At-Tawba dans son temps. Donc, c'est ça, la Tawba avec ses conditions. Donc, hein? J'ai pas dit le contraire, mais c'est pas moi et toi qui va te couper sa main. Ça, il faut le savoir. C'est ça dans les livres de jurisprudence. Inch'Allah, on aura l'occasion de l'avoir. Ça concerne Al-Hudud. Celui qui fait zina, c'est quoi son jugement? Celui qui vole, c'est quoi son jugement? Dans la législation islamique. Dans la législation islamique. Ça, on doit les traiter dans les chapitres de Al-Hudud. Et là, parmi ces choses, il faut maîtriser, il faut connaître, c'est le gouvernant qui a le droit de pratiquer ces hudud. Une personne, moi, toi, une autre personne, ou une association, peu importe, n'a pas le droit de couper la main d'une personne. Peu importe, même s'il a volé 10 milliards et 10 milliards, on n'a pas le droit de pratiquer ces hudud. Ça revient au gouverneur. C'est ni moi, ni une autre personne qui peut avoir ça. Donc le deuxième précepte qui est وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Donc, suis la mauvaise action, une bonne action, et la meilleure action qui est quoi? التَّوْبَة, le repentir. وَكَذَلِكَ الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةَ. Donc parmi les bonnes actions aussi, faire les bonnes œuvres. C'est ça? Les bonnes œuvres. الأعمال الصالحة فإنها تكفر السيئات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس. Donc deuxième chose aussi, la tawba aussi, c'est la meilleure des bonnes actions. La deuxième chose aussi qui est faire les bonnes œuvres, tout type de bonnes œuvres, prière, jeûne, aumône, hajj, umra, prière en groupe, parler bien, un bon comportement, tous ces bonnes œuvres, ils pourront effacer oui, les mauvaises actions. Et selon le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, As-salawatu al-khamsu wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan kaffaratun lima baynahunna majtunibatil kabair. Il a dit salawat al-khams, les cinq prières entre eux, et de jumu'ah ou jumu'ah. Du Jumu'ah au Jumu'ah. Ah, il y a qui délaisse le Jumu'ah? Oui ou pas? Il y a qui délaisse le Jumu'ah? Et wa Ramadan il y a Ramadan. Et entre un Ramadan, il y a un autre. Kaffaratun lima baynahunna. Donc ces bonnes œuvres, les cinq prières, les du Jumu'ah et une autre, et du Ramadan, ces bonnes œuvres effacent les péchés qu'ils étaient commis entre ces bonnes œuvres. Par exemple, entre une prière obligatoire et une autre prière obligatoire, si tu t'accomplis ou tu fais la prière obligatoire qui suit, entre ces deux prières, bidnillah, c'est parce que salat al-jama'a ou salat al-fard, c'est un amal salih, fait partie des bonnes œuvres. Elle effacera les mauvaises actions qui étaient commis entre ces deux prières. Du jumu'a au jumu'a, tu fais une jumu'a. Et après, la semaine prochaine, tu fais le jumu'a. C'est-à-dire, elle efface les mauvaises actions qui s'étaient commises entre le Jumu'ah et le Jumu'ah. Du Ramadan et du Ramadan aussi, s'il était bien fait, comme on avait dit, si on a craint Allah aussi dans le jeûne, et surtout, qui est le pilier du Ramadan, il effacera les mauvaises actions qui s'étaient commises entre Ramadan et Ramadan. Et le prophète dit, « Majtuni batil kaba'ir » sauf les grands péchés. Sauf les grands péchés. Ah, comment on peut se repentir, ou comment on peut se repentir d'un grand péché? Parce que là, ça concerne les mauvaises actions. Il faut distinguer entre une mauvaise action et un grand péché. C'est différent, c'est pas le même degré. Les mauvaises actions, parmi les six signes, elles pourront être effacées par une bonne action. Oui ou pas? وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Suis une mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera. Mais dans le hadith, il dit, dans le deuxième hadith, dans Salawat al-Khams, ou al-Jumu'a al-Jumu'a, ou Ramadan ila Ramadan, kafaratun lima baynahuma, ou kafaratun lima baynahunna, majtuni batil kabair, sauf les grands péchés. Comment on peut se repentir du péché? Il faut tawba pour le grand péché. On ne peut pas faire une bonne action pour effacer un grand péché. Non. Parce que le grand péché, c'est un grand péché. Mais son terme, il suffit. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi. Un grand péché, c'est un grand péché. Si? J'ai pas compris. Comment? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ouais, Russell Mates, c'est quoi? Oui, c'est quoi le hadith? C'est quoi ce hadith? C'est quoi le sujet? Non, il y a des bons œuvres qui. Je veux dire, il y a des bons œuvres bien particuliers. Mais ce n'est pas une hasana normale, elle effacera un grand péché. Parce que c'est clair. Il y a bien sûr, il y a des certaines actions, il y a des autres hadiths qui. Certains grands péchés, mais pas. C'est-à-dire, une bonne action bien particulière. Où le prophète l'a bien précisé. Mais une bonne action normale, elle ne peut pas effacer un grand péché, sauf avec une tawba. Soit disons, une personne est décédée avec un grand péché. Mawa Masero. Ah ah, là. On peut faire une umrah pour une personne qui est décédée, qui n'a pas pu faire une umrah. Ça, c'est une sadaqa pour lui. Il y avait un grand cheikh, il a voyagé d'un pied dans un pays où il est parti faire le hajj, et il a, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le hajj pour une personne qui est, une personne là, une personne contemporaine, il a fait le hajj pour une personne pour qui? Il a fait le hajj pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et le cheikh l'a déconseillé, il a dit, Ibn al-Qayyim, il a déjà fait beaucoup de hasanat, commence par toi-même. Mais il n'a pas blâmé pour le pas. On peut faire, Imam Ahmed ibn Hanbal, la lecture du Coran et faire certains sadaqats, ils sont acceptés pour les morts. Ça, on aura l'occasion de parler, Inch'Allah. Mais une personne est décédée par un grand péché. Elle n'effacera pas le père, on parle sur une personne a fait un grand péché. S'il est toujours vivant, il doit faire un tawba. On parle en général, d'accord, s'il a volé, etc., on doit faire le nécessaire. Mais en général, une personne, il est encore vivant, on sait qu'il doit faire tawba. Ça, on est sûr et certain. Qaddar Allah est décédé. هذا يدخل في مشيئة الله. Lui, il rentre dans la volonté d'Allah. Il rentre dans la volonté d'Allah. On peut pas savoir. Soit il le châtie, soit il va le pardonner. Mais nous, on ne doit pas dire, mais de toute façon, ça vient ni là. Non, nous, à partir du moment où on est encore vivant, on fait le possible pour se repentir. Soit des mauvaises actions, soit des grands péchés. Parce que c'est clair. Parce que si, on ne sait pas, si tu seras châtié, ça aussi c'est un problème. Tant mieux si tu seras pardonné par Allah, qui n'a pas. On souhaite qu'il nous pardonne toutes les mauvaises actions et les grands péchés. Mais on ne sait pas. Mais ce qui est recommandé de faire Tawba. Et Tawba, elle est simple. Tawba, elle est simple. Sinon, il ne nous aura pas demandé de faire Tawba. Elle est simple pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, on essaie de faire Tawba. Et avant ça, parce que c'est vrai de faire Tawba du grand péché. Mais déjà, peut-être parmi nous, ils ne connaissent même pas quels sont les grands péchés. Oui ou pas, Ibrahim? Il y a combien de grands péchés? Comme? Qu'Allah nous préserve et nous guide. Je sais très bien le sujet. Je sais très bien. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais faire moi? Ce que je peux faire moi, c'est que je dois pour ces gens. Je sais bien. Que, c'est pas moi qui vais juger. Nous, on dit, regarde. Non, c'est de l'islam. On ne peut pas dire que ça, cet acte, il sort de la personne de l'islam. Non, il reste musulman. Mais, il reste musulman. On parle sur un principe. Pour ceux qui délaissent la prière.
Si il est mort, on va prier ça à un musulman ?
Non, on fait la prière d'Aaron.
Si il est mort, tout le temps, il ne prie pas. Quand il est mort, tu l'as mis au musulman, il est prié les ramadans. On va prier ça ?
La personne, ça c'est très important. Ça c'est parmi les meilleurs dans lorsqu'on doit changer les palais. Pourquoi ? Parce que beaucoup parmi nous, ils pensent mal sur leur frère. Parce qu'une personne, il n'a pas jeûné, il n'est pas musulman. C'est faux ça, les frères. C'est faux. Une personne n'a pas fait la prière, on ne fait pas la prière sur lui. On doit faire attention. L'ulama, ils disent, à la base, il est musulman ou pas ? Une personne, il est né musulman, à la base. Oui ou non ? Non, une personne, s'il est musulman, il est né, une personne, nous, on est né musulman. Ça, c'est un kafir murtid, il est abonné de shahada, un musulman. C'est un musulman. On ne va pas lui dire à l'âge de 3 ans, dit Ashhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est après. Mais lui, il est musulman. Le lama, ils disent que une personne, s'il est musulman, il reste musulman. On ne lui sort pas de l'islam, sauf d'une preuve apparente d'Allah et de son messager. Qui nous dit que celui qui délaisse Ramadan, c'est un kafir ? Nulle part. Qui nous dit qu'il délaisse la prière et les mécréants, nulle part. Même s'il existe des hadiths sur ça. Et je sais très bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum, tarku salat, faman tarakaha, kafar, tayyib. » Ça concernant la prière. Mais certains savants, ils en disent, s'ils croient que la prière elle est obligatoire, etc., là, ils ne sortent pas de l'islam. Mais en général, le jeûne, ce qu'on doit dire, et on doit le répéter, c'est un grand péché de délaisser le ramadan. Ça, c'est le minimum. Il fait partie des grands péchés. Revenez à l'aise des grands péchés, vous trouvez, « Man aftara amdan » celui qui mange volontairement. Aftara amdan. Sylvain au travail. Non, il doit jeûner au travail. Non, on parle en général. Donc on fait attention. Une personne, s'il vient faire la prière avec nous, il est musulman. On ne cherche pas s'il fait une fois, deux fois, il fait juste pendant le ramadan. On ne sait pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait la prière chez lui. On ne sait pas. Oui ou pas. Ceux qui viennent pendant le ramadan, moi je ne peux pas, et personne, nulle part, personne peut dire que toi, t'es sûr que je ne veux pas la prière parce que, on ne sait pas, il fait la prière chez lui. Et il délaisse al-jama'a. Ce n'est pas une chose qui lui sort de l'islam. Mais c'est un grand péché. Ça, il faut savoir. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que, ah non, c'est pas grave de ne pas faire la prière en groupe, c'est pas grave de délaisser le ramadan, c'est pas grave. Il ne faut pas aller dans l'extrême de dire, et je l'ai entendu beaucoup, une personne ne fait pas la prière en groupe, c'est pas un musulman. Non, c'est un musulman, c'est un croyant, mais sa foi, elle est faible. Il reste musulman, mais sa foi, elle est faible. C'est pour ça la définition de l'iman, la foi dans... C'est quoi la définition de la foi ? Amalun bil qalb. Amalun wa qawlun bil qalb. Une parole, une pratique avec du cœur. On va prendre la définition la plus détaillée. I'tiqadun bil qalb. Une croyance avec le cœur. Écoutez très bien, une croyance avec le cœur. Deuxième chose, amalun bil jawarih. Pratique avec les membres. Troisième chose, وَنَطْقُنْ بِاللِّسَانِ. Tu dois le prononcer. Pour entrer en lisan, tu dois prononcer shahada. Tu ne peux pas dire, moi, je le dis dans mon cœur. Non. Et on aura l'occasion de parler. Le troisième et le quatrième, c'est le plus important. يَزِيدُ بِالطَّاعَ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَ. يَزِيدُ بِالطَّاعَ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَ. Donc on doit faire attention à ça. Peut-être qu'il a commis des péchés, qu'il a affaibli sa foi, il n'est pas venu au salat al-jama'a. Mais cela, ça n'implique pas qu'il n'a plus la foi, donc il n'est plus musulman. En fait, il faut distinguer entre musulman et croyant. Il est musulman, mais sa foi, elle est faible. Parce que celui qui est là, il a une bonne foi. C'est clair ou pas? S'il est assis salat al-jama'a, parce que la foi, elle augmente avec les bonnes œuvres, oui ou pas? On le sent tous. Quand on lit le Coran, on est meilleur qu'eux, on se sent bien et à l'aise si on parle mal sur les gens, ou si on regarde des mauvaises choses. Ça c'est sûr, quand on commet des mauvaises actions, et certainement, quand on délaisse le jama'a, quand on délaisse la prière, quand on délaisse le groupe, quand on délaisse l'apprentissage de la songe, toutes ces choses affaiblissent la foi. Mais s'implique pas. وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمْ خُرُوجَ الْمَرْءِ مِنْ إِسْلَامِهِ إِلَّا بِحُجَّةٍ قَاطِعَةٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sauf avec une preuve évidente d'Allah et de son messager. Si t'as une preuve évidente, claire, tu dois le ramener, tu dois le faire expliquer que ça. Il y a une façon pour arriver à faire sortir de l'islam, une personne de l'islam parce qu'il a commis un péché. Donc on fait attention à ça. Nous, ce qu'on doit dire que c'est pas bien de délaisser la jama'a, c'est une kabira. C'est une kabira de délaisser la prière. Et le lama concernant la prière, bien sûr, il y a deux avis. Il y en a, il le sort de l'islam. Celui qui délaisse la prière toute sa vie, il a jamais fait, il est mécréant. Et les ulama, ils disent, on fait ni la prière sur lui, on l'enterre ni avec les musulmans, et on l'enterre même pas avec les musulmans, on l'enterre dans une fosse commune ou dans un trou, on le laisse les chiens le manger. Il y a un iot à l'équilibre. Et la djoufa, c'est une chair, viande, on peut rien faire de ça. Et le deuxième avis ici, qu'ils disent que le minimum des choses, ils disent que tarka salat, أخبث القب أعلى درجات الفسق ترك الصلاة. Le plus haut degré de la perversité, c'est celui qui délaisse la prière. Soit une prière, soit tout. C'est-à-dire, ça c'est le deuxième avis qu'on va dire le plus souple. Le plus doux, si on se permet de le dire. Mais imaginez une personne qui délaisse soit une prière volontairement ou plusieurs prières, et il dit min afsaqil fussaq. Et c'est pour ça on doit faire attention que celui qui délaisse la prière. C'est un truc très important. Sinon, il sera pas le deuxième pilier de l'islam juste après shahada. Et sinon, toutes les adorations et surtout les obligations, elles étaient ordonnées sur terre. Oui ou pas? Fouridat ala l'arbre. Oui ou pas? Al jihad wa sawm wa zakat wa l'wudu wa kol. Et là, as-salat, aïna fouridat? Fi sama. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui prouvent que le degré de la prière. C'est pour ça qu'on doit faire attention à la prière. Si t'es malade, si t'as un empêchement, t'es voyageur, ça c'est des choses, ça c'est des permissions. Mais une personne est en bonne santé. C'est bon. Il y a même un hadith qui dit La salata li jari al masjid illa li udr. La prière n'est pas acceptée du voisin de la mosquée sauf avec une excuse. La salata li jari al masjid. On est combien au Tartaret? On est combien à Corbeil? On est tous des voisins de la mosquée. On est combien dans Salat al-Isha? On est combien au Salat al-Fajr? On est combien au Salat al-Dhuhr? On est combien au Salat al-Asr? On est combien au Salat al-Maghrib? Illa man rahima rabbuk. Illa man rahima rabbuk. Et le Nabi sallam قال La salata. Les ulama, ils ont dit, est-ce que là, لنفي الكمال ou لنفي الصحة? لكن الظاهر من أقوال العلماء لنفي الصحة. Est-ce que qui signifie, c'est-à-dire la prière, elle est incomplète ou elle est inacceptée, c'est ça? Le terme inaccepté, hein? Elle est inacceptée. Et l'apparence du hadith, elle est inacceptée de celui qui délaisse la mosquée pour la prière du groupe sans excuse. Sans excuse. Celui qui est malade, celui qui a un udr shar'i, la pluie, un voyageur, un malade, ou une femme qui a ses menstrues, ou à la istihara. Ça, c'est des excuses dans la législation. Mais c'est, la fatigue, ce n'est pas une excuse. Le travail, ce n'est pas une excuse. Loin, parce qu'il y en a qui disent, moi je suis loin. Il faut connaître quand est-ce qu'on peut définir, moi je suis loin de la mosquée, je ne suis pas loin. Les ulama, ils disent, comment, c'est quoi la distance pour savoir une personne qui habite autour de la mosquée, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est loin, elle n'est pas loin. Les ulama, ils disent, la distance minimum est la suivante. Si le mu'adhdhin fait l'adhan sans haut-parleur normal, et la personne qui habite autour de la mosquée longtemps l'adhan sans obstacle, c'est-à-dire dans le désert, c'est-à-dire il n'y a pas ces bâtiments qui empêchent la voie qu'elle atteint la personne, et ils disent que lui, il est obligatoire qu'il se rend à la mosquée. Parce qu'il y en a qui sont juste là, il va dire moi je suis loin. Non, t'es pas loin, Harry. Donc il faut faire attention à ça. Et la prière, le degré de la prière, elle est très important. Mais de toucher l'islam de la personne parce qu'il a commis une mauvaise action ou un grand péché sans preuve évidente, et c'est pas toi et c'est moi qui va le sortir de l'islam, il y a une façon de le faire. C'est les savants qui l'expliquent à cette personne. Il faut connaître sa situation. Peut-être il a une bonne excuse, peut-être il est malade, peut-être il est loin. Il y a une étape, une étape pour arriver à la fin que ça c'est pas de l'islam. Non, on dit il est musulman. Mais sa foi, elle est faible. Donc ça, il faut très faire attention à ce point. Al-wasiyyat al-thalitha, le troisième précepte, et on va terminer dans 5 minutes, inshallah. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et comporte-toi un bon comportement avec les gens. Wal-wasiyyatan al-awaliyan. Remarquez très bien al-wasiyyat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith très court. Et ce qui est bien, si on essaie d'apprendre ce hadith chaque jour, à la fin peut-être on va apprendre une dizaine de hadiths. Le hadith il dit « Ittaqi Allah haythu ma kunta wa tba'i sayyi'at al-hasanata tamhuha » et la troisième « Wa khaliqi an-nasa bi khuluqin hasan » Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est vrai, c'est une faïda, c'est une leçon. Il a dit les deux premières choses, ces deux préceptes, c'est entre le créateur avec son créateur, la créature envers sa créature, son créateur. Al-makhlouqun al-khaliq. Pourquoi? Parce qu'il a dit ittaqillah. Ça, c'est entre toi et Allah. La deuxième chose, watba'i sayyi'at al-hasanata tamhuha. Ça, c'est entre toi et Allah. Et la troisième chose, il a dit, c'est entre le créature ou la créature envers la créature. المخلوق للمخلوق وخالق الناس بخلق حسن أن تعاملهم بحسن بخلق حسن. Tu te comportes bien avec les gens avec un bon comportement. تحمد الله عليه ولا تذم فيه وذلك بطلاقة الوجه. Ça veut dire avec un bon sourire ou avec un bon visage, ou surtout avoir un bon sourire. C'est pas en regardant, t'es énervé, Ibrahim, envers moi, oui ou pas? Wasidqul qawl, et sortir avec la bonne parole. Et surtout avec la bonne parole, les frères. Parce que pourquoi on dit ça? Ça, c'est des wasaya azima jiddan. Wallahi azima jiddan. Wasaya azima. Peu de mots, mais beaucoup de leçons. وخالق الناس بخلق حسن. Ça contient, le Cheikh Al-Uthaymeen il dit, ça peut être soit avec les actes, avec des œuvres, ou avec la parole. Soit avec les actes, tu peux avoir un bon comportement en aidant ton frère. Comme aussi tu peux, en lui parlant, en lui disant un beau mot, c'est un bon comportement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, et vous connaissez très bien, si tu aimes une personne, dis-lui que tu l'aimes. Il faut savoir, si tu aimes une personne, tu lui dis, tu dois le dire. Inni uhibbuka fillah. Qui parmi nous dit à son frère ça? Je l'ai entendu une fois, ça fait 5 ans. Inni uhibbuka fillah. Tu le regardes, tes yeux dans ses yeux, tu lui dis Inni uhibbuka fillah. Wallahi, il n'y a pas meilleur que Dieu de lui dire ça. Essayez-la. Dis à ton frère juste après que si vous voulez, vous gagnez beaucoup de hasanat en lui disant ça. Inni uhibbuka fillah. Et l'autre, tu lui dis Ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fih. Juste avec une kalima tayyiba. Qu'est-ce que tu vas gagner le cœur de ton frère? Et nous, on entend que. Ah, Allah musta'an. Nous, on est des champions du monde dans le taquinage. Oui ou pas? Oui ou pas? On parle mal, son frère. Et après, à la fin, est-ce qu'il tue? À la fin, il lui dit, mais non, là, je rigole avec toi. Comment tu rigoles? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a rigolé avec ses compagnons comme ça? Lui, il a tué, il a cassé son cœur. Peut-être il a parlé sur sa femme. Il lui dit, voilà, je rigole, mon frère. C'est pour ça, cette wasiya, elle englobe tous les frères. On ne parle pas pour parler. Ça, il faut le pratiquer. Wa khaliq innas bi khuluqin hasan. Innas, qui ces gens? Ton frère, ta soeur, ta femme. C'est pas au rentre, tu rentres énervé. Tu te montres le bonhomme à la maison. Non. Wa khaliq innas. Ça englobe tout. Tes enfants, tes parents, ton voisinage. Même toi, tes voisins, soit musulman, soit mécréant. Soit musulman, soit mécréant. On doit se comporter, avoir un bon comportement. Et toute autre chose, des bonnes œuvres, des bons comportements. On va terminer. Il y a beaucoup de thèses qui prouvent et qui nous incite à avoir un bon comportement. Fi fadli al-khuluqi al-hasan hatta qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit akmalu al-mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Subhanallah. Akmalu al-mu'minina imana. Comment on va le traduire? Là, c'est-à-dire les gens qui ont le plus haut degré de la foi, c'est ceux qui ont le bon comportement. Ça déduit que, ça ne veut pas dire que faire salat, zakat, qira'at al-Qur'an, ta'abbud, faire nafila, faire sunnah, et quand tu te comportes avec ton frère, quand tu lui parles, Allah al-Musta'an. Quand tu parles avec ta femme, Allah al-Musta'an. Parce que beaucoup parmi nous, on le voit en salat al-Jama'a, on le voit faire nafila, il fait tout, il assiste au Toros, il apprend le Coran, il fait une nafila, il vient à l'heure, il fait, il est bien. Mais quand tu le vois avec sa femme, Allah al-Musta'an. C'est ajib, ajib, wallahi ajib. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pratiqué juste cette expression. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Et Nabi sallam, akmalukum imana, ou akmalul mu'minina imana, ahsanuhum. خلقا فنسأل الله أن يجعلنا أن يحسن خلقنا وأخبر أن أولى الناس به صلى الله عليه وسلم. Il y a une autre preuve aussi qui dit les meilleurs gens ou les plus proches, les meilleurs gens qui sont plus proches de lui le jour du jugement, c'est qui? C'est أحسنهم أخلاقا. Vous imaginez la valeur et la récompense du bon comportement, les meilleurs pratiquants ou les meilleurs qui ont la bonne foi ou le plus élevé degré de la foi, c'est ceux qui ont le bon comportement. C'est-à-dire, il faut les deux. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que je délaisse les obligations et je ne pratique pas et je suis j'ai un bon comportement et vice-versa. La meilleure chose, c'est pour ça qu'il a dit « Akmalul mu'minin ». Un mu'min, s'il n'est pas pratiquant, il ne peut pas être un mu'min. Même s'il peut avoir une faible foi, mais il faut pratiquer. Mais ses meilleurs pratiquants, c'est ceux qui ont de plus le bon comportement. Il a dit, أَقْرَبُهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنْهُمْ أَخْلَاقًا. Les gens les plus proches de lui le jour du jugement, c'est ceux qui ont le bon comportement. فَالْأَخْلَاقُ الْحَسَنَ مَعَ كَوْنِهَا مسلكا حسنا في المجتمع ويكون صاحبها محبوبا إلى الناس فيها أجر عظيم يناله الإنسان في يوم القيامة. Il a dit le bon comportement, il est bien pour lui dans sa société et et il aura, il sera envers les gens, il sera bien, parce que certainement, et on parle pratique, celui qui est bien, il a un bon comportement, et il est toujours bien avec tout le monde. Oui ou pas? Certainement, il est toujours bien avec tout le monde. Il n'est jamais entre lui les biens et l'autre mauvais. Non, il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un manque de comportement. On ne peut pas être bien avec une personne et non. Il faut avoir un bon comportement envers tout le monde et la récompense qui sera le jour du jugement. C'est-à-dire, il a dit, apprends et pratique ces wasaya, ces préceptes. الثلاث من النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا يبقى لا والله الموفق. Donc le premier précepte qui est اتق الله حيث ما كنت. Donc crée Allah où tu trouves. Deuxième précepte, donc la wasiya الثانية اتبع الحسنة تمحها واتبع السيئة الحسنة تدمرها. Suit ou succède une mauvaise action par une bonne action, et la meilleure action c'est à Tauba, le repentir et faire les bonnes œuvres. Et la troisième chose qui est très importante envers al-makhlouq wa khaliq an-nas bi khuluq hasan, et nas ça englobe tout comme on l'avait expliqué. Wallahu al-muwaffiq, wallahu a'lam. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa ma'dhiratan ala fawt al-waqt. Jazakumullah.